Sujet de discussion.
Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à Sujet de discussion. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'entrepreneuriat, principalement aux idées reçues sur ce profil. Trop souvent, l'entrepreneuriat est entouré de mythes et de stéréotypes qui peuvent décourager de potentiels entrepreneurs ou même fausser notre compréhension de ce qu'implique réellement cette aventure. Nous entendons souvent dire que pour réussir en affaires, il faut avoir un capital énorme, une idée révolutionnaire ou encore des contacts privilégiés. Mais qu'en est-il réellement ? Pour en parler, nous recevons Amara Bamba, entrepreneur et vendeur de terrain. Bonjour Amara.
Bonjour Christelle.
Merci d'être venu ici à Radio de la Paix.
Bah de rien, plaisir est mien.
Et nous sommes aussi avec Oué Jaurès, entrepreneur et fondateur de Digi Creative, agence spécialisée dans le conseil en communication et aussi l'organisation d'événements professionnels. Bonjour Jaurès.
Bonjour Christelle.
Alors soyez le bienvenu à Radio de la Paix.
Et je vous remercie aussi pour l'invitation et c'est toujours un plaisir de parler d'entrepreneuriat.
Merci beaucoup. Alors avec eux, nous allons tenter de déconstruire les idées reçues sur l'entrepreneuriat.
Radio de la Paix, mieux comprendre les enjeux.
Soyez les bienvenus messieurs dans notre studio. On va commencer par en apprendre un peu plus sur vous. Alors Amara, vous êtes entrepreneur depuis combien d'années déjà ?
9 ans je dirais.
Oui, 9 ans dans le domaine.
L'aventure entrepreneuriale a commencé depuis 2015.
Oui.
On a commencé d'abord par le marketing du réseau qui nous a permis d'avoir les bases. La formation. La chance qu'on avait, c'était d'être dans une industrie qui privilégiait la formation de l'individu avant le chercher l'argent.
D'accord.
Du coup, on a été vraiment en contact avec des entrepreneurs vu qu'on organisait beaucoup de séminaires de formation et autres. On était beaucoup plus pragmatique et pratique. Donc, on était au contact avec la vente. C'était pas le truc de j'apprends un truc et je vais servir à qui veut l'entendre pour dire je suis fort. C'était le tu as appris à vendre, vends.
Ok.
Du coup, depuis 2015, on a vraiment appris un peu de l'entrepreneuriat digital.
Mm-hmm.
Après ça, on n'allait pas rester que dans le virtuel. Donc, on a décidé de faire l'entrepreneuriat physique.
Ouais, et donc, vous êtes dans plusieurs domaines. J'ai vu que vous êtes dans l'agriculture, la pisciculture et même aussi l'immobilier.
Oui.
En tout cas, on voit que vous avez pas mal d'expérience dans plusieurs domaines. Et quant à vous, Jaurès, vous êtes dans le domaine un petit peu de la formation aussi, mais aussi de l'entrepreneuriat. Et vous êtes souvent amené à conseiller les entrepreneurs, c'est ça? Parlez-nous un peu de tout ce que vous faites.
Donc, moi, j'enregistre ma première entreprise le 28 décembre 2015. Donc, j'enregistre l'entreprise. Ensuite, à l'époque, j'ai besoin de bureaux pour travailler. Je n'ai pas forcément les moyens de prendre un local et tout ça. Donc, je cherche un espace de coworking. Et là, je découvre qu'il y a une communauté d'entrepreneurs qu'on appelle Jocolab. Donc, je vais là-bas, je m'installe, je commence à travailler. Et ensuite, je rencontre d'autres entrepreneurs et tout ça. Et chemin faisant, c'est là que je découvre que ce que je fais, on appelle ça l'entrepreneuriat, en fait.
Okay.
Parce qu'on crée des entreprises et autres, mais on ne sait même pas quand on entreprend. Et je rencontre d'autres entrepreneurs. Et c'est une communauté d'entrepreneurs pour apprendre des pairs. Donc, on partage des expériences et tout ça. Et donc, c'est avec l'expérience, avec le temps, que je deviens aussi hub manager au niveau de la communauté. Donc, l'idée, c'est surtout de faire la facilitation, accueillir les nouveaux entrepreneurs, les accompagner, les conseiller et tout ça. Donc, c'est chemin faisant qu'on découvre d'autres domaines, on apprend, puis on se forme. C'est un peu ça.
Oui, c'est intéressant à savoir. C'est chemin faisant qu'on se découvre d'autres capacités,
quand
on rentre aussi dans d'autres domaines. Allez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet qui est déconstruire les idées reçues sur l'entrepreneuriat. Alors, la première idée que nous avons pu relever, c'est que est-ce que tout le monde peut entreprendre? On entend souvent dire que, voilà, c'est facile, il suffit juste d'avoir une idée, on se lance. Mais est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde? On va commencer avec Amara. Pour vous qui êtes dedans à plein temps, est-ce que vous pensez que tout le monde peut entreprendre?
Tout le monde entreprend. Entreprendre, c'est faire quelque chose. Si on va sur le sens étymologique du mot entreprendre, c'est faire quelque chose. Maintenant, l'entrepreneuriat en tant que tel, est-ce que tout le monde peut le faire? Je pense que oui et non. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas du rentrer-sorti.
C'est-à-dire?
C'est véritablement s'oublier, se sacrifier pour ce qu'on fait. Et je pense pas que tout le monde soit prêt à se sacrifier véritablement pour une idée, par exemple. L'entrepreneuriat, tout le monde peut pas faire parce que il y a des gens qui sont très bons à recevoir des directives.
Mm-hmm.
Donc, de très bons employés qui vont suivre un plan prédéfini par quelqu'un et puis faire marcher une entreprise. Cette personne est bonne à être employée. Okay. C'est pas péjoratif, c'est pas méchant, c'est pas mauvais d'être employé. Bien au contraire, tu te sens dedans, tu fais ta chose. Pourvu que tu le fasses avec le cœur, que tu le fasses en ayant un plan bien défini. Maintenant, pour l'entrepreneuriat, quand on dit « je commence à entreprendre », la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a décidé de devenir maître de son destin. Donc, tout va te tomber là-dessus. Du coup, combien de personnes sont prêtes à accepter de sacrifier son sommeil, sa vie, ses rêves, ses amis, ses... tout ce que tu as pour pouvoir entreprendre véritablement. Donc, si on va sur cette base, tout le monde ne peut pas entreprendre.
D'accord. Alors, selon vous, ce n'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que j'aurais vous partager cet avis?
Comme je l'ai dit, oui et non. En 2025... c'est peut-être plus facile d'entreprendre que peut-être il y a 10 ans ou 15 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'abondance de ressources avec Internet. Donc, les gens, ils ont accès à de l'information, à des formations gratuites comme payantes. Ils peuvent avoir accès à du mentorat en ligne, du mentorat à distance. Il y a des savoir-faire qui sont démocratisés. Donc, je prends un exemple, par exemple, aujourd'hui, si vous vous lancez et que vous aviez peut-être besoin il y a 10 ans d'un infographe et tout ça, vous pouvez peut-être suivre Fiverr, par exemple, avoir un infographe pour très peu. À débousser au fait. Parce que vous voyez, si vous vous lancez aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir un bureau, vous pouvez avoir un espace de coworking par exemple pour vous lancer. Voilà. De plus en plus, avant peut-être que pour créer une entreprise, il fallait avoir un notaire et tout ça. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Voilà. Donc, je pense qu'en 2025, c'est beaucoup plus simple d'entreprendre. Maintenant, quand tout le monde rentre sur un marché, bon, peut-être sur le marché de l'entrepreneuriat, lorsque la barrière à l'entrée est faible, ça fait que beaucoup de personnes rentrent dans ce domaine-là et du coup, il y a plus de concurrence au fait. Donc, du coup, ça devient un peu complexe de ce côté-là. Et je pense que pour les entrepreneurs, hormis les compétences techniques qu'ils ont, par exemple, je connais des gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat parce que c'était de bons développeurs, c'est de bons, on va dire quoi, vendeurs, par exemple. Mais tous les autres aspects de l'entrepreneuriat, peut-être comment gérer une entreprise, comment recruter, n'avaient pas ces compétences-là. Donc déjà, au-delà des connaissances, on va dire quoi, de leur domaine d'activité, ils doivent pouvoir aussi développer d'autres compétences. Et puis surtout, développer certains traits de caractère, par exemple. Parce qu'il faut être résilient. On entreprend, c'est pas un fleuve, un long fleuve paisible. Il faut être résilient. Il faut être prêt à donner du temps. Il faut être persévérant, par exemple, aussi.
Faut développer l'entrepreneur.
Voilà, faut développer l'entrepreneur qui en sort, en fait.
D'accord.
Donc, je pense que tout le monde peut entreprendre, mais à condition de savoir ce dans quoi on se met. Voilà, et puis être prêt à faire le chemin qu'il faut pour ça, en fait.
D'accord, oui. Ok, voilà qui est bien noté. Et deuxième idée reçue que nous avons pu enregistrer, c'est qu'on peut être employé et entrepreneur. Par exemple, quelqu'un qui a la fonction publique peut décider de mettre quand même sa petite entreprise de commerce en ligne en place et puis continuer tranquillement à faire son petit travail de fonctionnaire. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que les deux se font? Amara, vous en dites quoi?
Bien sûr que ça peut se faire. Tout à l'heure, je complétais les propos de mon confrère pour dire qu'il faut développer l'entrepreneur avant l'entreprise. Quand on est salarié, entrepreneur, c'est vraiment un gros challenge.
Oui.
C'est un immense challenge qu'on se lance en fait. Parce que l'entreprise aura besoin de son employé que vous êtes. L'entreprise dans laquelle vous travaillez aura besoin de l'employé que vous êtes.
Oui.
Quand vous allez finir de faire le travail de votre patron, vous reviendrez faire votre travail à vous, qui est votre entreprise à vous. Mais est-ce que vous aurez le temps de gérer tout ça? Même si vous prenez un simple business de livraison, géré par quelqu'un d'autre, bon, la moto pilotée par quelqu'un d'autre, et vous assis à votre bureau à faire votre boulot, vous avez recueilli les commandes la veille, vous venez donner au livreur, il va gérer tout et tout. C'est pas aussi simple que vous pensez, parce que à tout moment on peut vous appeler pour dire le livreur a eu un bobo.
Oui.
À tout moment on peut vous appeler pour dire mon colis n'est pas arrivé intact. À tout moment quelqu'un peut se plaindre. À tout moment quelque chose peut requérir votre présence. Et vous, étant employé, vous ne pourrez pas vous permettre de bouger comme un salarié à plein temps. C'est pas facile, mais c'est pas impossible aussi. Faut juste que, comme j'ai dit à l'entame de l'émission, faut juste que vous ayez un plan. Faut que vous vous asseyez. Après, je dis, si on veut construire un building de 100 millions, on peut pas dire qu'on peut pas se permettre de prendre 2 heures, une semaine pour véritablement étudier le plan. Donc, si vous voulez entreprendre et faire votre boulot, prenez du temps, une semaine, un mois, 2 mois, le temps qu'il faut. Asseyez-vous, réfléchissez correctement au plan. Parce que sans plan, vous allez naviguer à vue. Et c'est sûr que vous allez abandonner. Peut-être les deux même. Parce qu'au travail, vous ne serez pas performant. On risque de vous congédier. De l'autre côté aussi, à entrepreneurial, on ne congédie pas. C'est ton argent même qui s'en va. C'est ta personne qui s'en va.
Parce qu'il y a des problèmes qui dépassent l'argent. Il y a des choses qui arrivent que tu ne peux pas imaginer. Tu te demandes, mais à quel moment ça n'a pas marché? Et là, tu es vraiment dans le gouffre, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est possible. C'est possible, mais il faut avoir un bon plan. Il faut véritablement savoir où on va, qu'est-ce qu'on est prêt à miser, qu'est-ce qu'on a comme atout, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'il nous faut. Il faut avoir des réponses à ces questions avant de se lancer. Sinon, c'est possible.
Mmh. Cela semble assez complexe quand même.
Pas aussi complexe qu'on le dit. En fait, moi, en 2016-2017, par exemple, comme j'ai dit, 2015, j'étais dans le marketing des réseaux. Mmh. Je me faisais quand même beaucoup d'argent. D'accord. Pour mon âge.
Okay.
Je me faisais quand même beaucoup d'argent. Je pouvais me permettre de dire... C'est facile de se faire de l'argent, ça peut marcher, pourquoi, voilà. Je pourrais me... Mais aujourd'hui, quand je pense au risque qu'on prend de dire j'abandonne mes choix de l'autre côté pour l'entrepreneuriat, je préfère dire à quelqu'un qui veut se lancer, gars, prépare-toi, parce que c'est pas de l'amusement ici, quoi. Voilà, donc je préfère être réaliste, dire aux gens, c'est pas que c'est compliqué, mais faut quand même se former, faut quand même s'informer avant de se lancer, quoi.
Mm-hmm. Ok, ça demande beaucoup d'efforts. Vous pensez pareil, Jaurès?
Oui, moi, la question que je pose souvent à ceux qui disent, je vais garder mon emploi et entreprendre à côté, je leur demande, je leur dis, mais est-ce que vous pensez que dans votre entreprise que vous êtes en train de développer sur le côté, est-ce que vous pensez qu'un de vos collaborateurs peut aussi développer, lui, son business sur le côté, au fait? Et généralement, c'est non, en fait. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que peut-être quelqu'un qui a un revenu régulier, peut-être qu'il ne peut pas, sur un coup de tête comme ça, décider de tout abandonner pour se lancer en entrepreneuriat, mais il peut déjà commencer, comme il a dit, à faire son plan.
D'accord.
À étudier le secteur, voir si ce secteur lui convient. Et puis ensuite, tester l'idée. On peut prendre un mois de congé, on peut prendre ses soirées, parce que c'est ça le sacrifice aussi.
Oui.
Ses soirées, ses week-ends, tester l'idée. Mais du moment où ça commence à rapporter, je pense qu'il faut arrêter et puis se lancer à son propre compte. Parce que vous avez des concurrents qui, eux, ils sont à plein temps sur une activité. Vous ne pouvez pas le faire à temps partiel et puis avoir les mêmes résultats que ce n'est pas possible. Et puis ensuite, cette démarche-là peut se faire aussi au détriment de l'employeur actuel, au fait. Parce qu'on est des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Et ce qu'il faut faire, peut-être travailler pour que les employés au sein de l'entreprise puissent peut-être développer des projets, puissent se reconnaître dans l'entreprise et puis surtout puissent pouvoir, comme on dit, scaler. Donc, si eux, ils veulent développer des projets au sein de l'entreprise, ils puissent le faire. Parce que quand ils le font en dehors également, ça peut être au détriment de l'employeur. Parce que, comme il a dit, on ne peut pas être à 100% des deux côtés, au fait. Ouais. Forcément, ça va se faire au détriment de l'employeur. Mmh.
D'accord. Alors, on retient que c'est possible, mais bon, il faut quand même beaucoup de sacrifices. Alors, troisième idée qui est la plus répandue, que nous voyons un peu partout, on peut entreprendre avec 0 franc. Il y en a même qui passent partout, vous dites que oui, moi c'est possible, je l'ai fait, j'avais rien en compte, j'avais 0 franc, vraiment aucun sou, mais j'ai réussi à construire mon entreprise à partir de rien. Est-ce que pour vous, Amara, qui avez commencé très tôt, qui avez développé aussi plusieurs choses, est-ce que vous avez réellement commencé sans aucun sou?
Si c'est mon cas, moi je n'ai pas commencé sans un sou. J'ai commencé avec 15 000, voilà. Mais dans mon domaine, ça passait et puis j'ai été aidé. Est-ce qu'on peut commencer avec 0 francs? Oui. Aujourd'hui, on peut commencer avec 0 francs. Moi, je vends des terrains à partir de 500 000 francs à l'intérieur du pays. Christelle me dit, Amara, je pense que dans mon entourage, je pourrais avoir des personnes intéressées par des terrains. Est-ce que tu peux me balancer tes offres? Que je balance à Christelle, qui balance sur son statut WhatsApp, des gens sont intéressés. Elle donne mon numéro dans la mise en relation. Je gère tout, je lui envoie sa commission. Elle a commencé avec 0 francs.
Okay.
Dans le domaine du foncier, Christelle vient de commencer avec 0 francs.
Mm-hmm.
Elle va se faire 1, 2, 3 clients, 5, 10. Après, elle va dire, tiens, Amara, au lieu que je partage que tes offres, est-ce que je pourrais pas prendre ma commission pour m'acheter des terrains à moi?
Mm-hmm.
Donc, au lieu que je lui vende des terrains à peut-être 500 000 francs, alors que j'en achète à 400 000, 300 000, je pourrais lui dire, bon, comme déjà on a une proximité, je vois comment je travaille, au lieu de cela, je veux cette fois-ci prendre tes commissions, toi-même tes commissions là, les utiliser et puis acheter ton terrain directement à la source. Donc, quand je vais acheter le terrain à 300 000, j'achète un terrain de Christelle à 300 000. Donc, Christelle revend son terrain à 500 000 comme moi, parce qu'elle a l'habitude, ou à 550 000 avec majoration. Et puis, elle se fait un petit bonus de 200 000, 250 000 ou 100 000.
Okay.
Au fur et à mesure, elle dit, bon, tiens, je pense que ça marche bien, je vais me former et puis moi-même me lancer véritablement dans le foncier.
Mm-hmm.
Je pense que Christelle aura créé une entreprise sur la base de 0 francs, mais pas sur la base de rien.
Oui.
Le rien, ça, c'est pas possible. On peut pas se lancer sur la base de rien. On peut se lancer sur la base de 0 francs, mais pas rien. Parce qu'il te faut quelque chose pour commencer. Il n'y a rien à faire, en fait. D'accord. Même les compétences, c'est pas rien.
Oui.
Même le réseautage, le réseau que tu as pour pouvoir balancer mes offres, c'est pas rien.
Oui.
Généralement, on n'a rien comme argent, mais on a beaucoup d'autres atouts qu'on ignore.
Oui.
Et moi, je dis, ce n'est pas qu'une question d'argent. Pour moi, le plus facile à avoir en entrepreneuriat, c'est l'argent. Mmh. Pour moi, en tout cas.
Et c'est souvent ce qui fait défaut, peut-être, quand on voit les discussions sur les réseaux sociaux. Les gens se focalisent plus sur l'argent et ils pensent que les compétences humaines et autres ne sont pas vraiment essentielles.
Du coup, ce n'est pas l'argent, c'est le manque d'informations, mmh. comme
oui.
je dis.
Oui, justement.
Le véritable problème des entrepreneurs que nous sommes en Afrique, ce n'est pas l'argent. Ce sont les informations et la formation.
Oui.
Parce que souvent, on se lance dans des domaines que l'État dit, il faut laisser tomber, devant la IFM. Mais on se lance quand même parce que quelqu'un a parlé de ça, véritablement, ce n'est pas ça l'entrepreneuriat.
Mm-hmm.
L'entrepreneuriat naît d'abord d'une idée. Si quelqu'un n'a pas une idée de business, il ne peut pas entreprendre. Donc si l'idée j'aime de Amara Bamba, que toi, Christelle, tu essaies de réussir via cette idée, sans véritablement travailler l'idée, tu ne vas pas t'en sortir. Ça, il ne faut pas qu'on se blague, en fait.
Mm-hmm. D'accord.
Voilà. Donc, ce n'est pas toujours une question d'argent, oui. c'est plus une question d'information.
Mmh. Très bien. Alors, vous, Jaurès, qui recevez souvent de jeunes entrepreneurs et vous les conseillez aussi, vous les aidez dans l'établissement de leurs projets, de leurs entreprises, est-ce que vous leur conseillez d'entreprendre même s'ils n'ont pas vraiment de moyens?
Oui. Moi, je pense qu'entreprendre à partir des 0 francs, pour moi, c'est entreprendre à partir des acquis qu'on a, en fait.
Mmh.
Donc ça peut être des, on va dire tout ce qui est matériel comme immatériel. Donc la connaissance, vous avez suivi des formations, vous avez un parcours académique, des gens ont eu des expériences professionnelles. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut valoriser par exemple. Ensuite, il y a des outils que vous utilisez tout le temps. Donc il y a des gens, tous les jours, ils rechargent leur téléphone avec de l'internet et autres. Ils ont un ordinateur à disposition et autres. Et c'est s'appuyer sur ce qu'on a déjà et puis se lancer au fait. Donc si, comme il a dit, quelqu'un qui est dans le domaine de l'immobilier, d'habitude il met des vidéos sur TikTok où il danse par exemple, mais là il met une vidéo où il dit par exemple qu'il a des terrains à disposition dans tel endroit, là ça ne lui a pas coûté plus que ce que ça lui coûte d'habitude, mais il s'est lancé en entrepreneuriat au fait. Donc il s'est appuyé sur ce qu'il avait d'habitude, sur ce qu'il utilisait couramment au fait. Donc moi, entreprendre à partir des 0 francs, c'est ça, c'est entreprendre à partir de ses acquis au fait.
Mm-hmm.
Voilà. Et je pense que tout le monde a un acquis, tout le monde a des compétences. Il y a des gens qui, depuis qu'ils sont petits, nettoient chez leurs parents et tout ça. Ils savent nettoyer. Est-ce que sur Facebook, ils ne peuvent pas poster pour dire, ou sur WhatsApp, pour dire ceux qui ont besoin peut-être d'une aide ménagère et autres, moi, je suis disponible. Ils se sont lancés en entrepreneuriat comme ça, au fait. Mmh. Mais ça ne leur a pas coûté plus que ce qu'ils avaient à leur disposition. C'est un peu ça.
Ouais. Est-ce que vous avez un exemple concret d'un jeune homme que vous avez aidé comme ça à mettre quelque chose en place sans forcément grand moyen?
Moi, je peux prendre mon exemple.
Oui.
Donc moi, j'ai commencé en tant qu'assistant virtuel dans un cyber. Je partais au cyber. D'habitude, on partait au cyber soit pour regarder les photos, les vidéos, tout là. Moi, je partais, je prenais 10 heures et puis je rédigeais des tests, par exemple,
mm-hmm.
pour des gens qui étaient en Europe et autres, et puis ils me payaient. Moi, quand j'ai lancé mon entreprise, avec quoi, j'avais mon ordinateur et puis ma connexion Internet. C'est ce que j'utilisais tout le temps, en fait. L'ordinateur, la connexion Internet. Et là, quand j'ai créé l'entreprise, j'ai un premier marché. Et là, avec cet argent, je paye une formation. Et puis, je me forme au fur et à mesure. Donc, je pense que moi, déjà, mon exemple, c'est un exemple à part de ça. Et puis, je connais beaucoup de jeunes qui sont arrivés, qui avaient juste un ordinateur et puis une connexion Internet, et puis qui ont lancé des entreprises, au fait.
D'accord. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour tous ces précieux conseils. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur Radio de la Paix et vous suivez Sujet de discussion. Aujourd'hui, nous tentons de déconstruire les idées reçues sur l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, nous sommes avec Amara Bamba, entrepreneur et vendeur de terrain partout en Côte d'Ivoire, et Oué Jaurès, entrepreneur et fondateur de Digi Creative, agence spécialisée dans le conseil en communication et l'organisation d'événements professionnels. Alors, messieurs, une autre idée reçue que nous avons pu relever, pour être entrepreneur, il faut avoir une idée révolutionnaire, un concept novateur, un concept qui sort de l'ordinaire, qu'on n'a jamais vu quelque part. Est-ce que c'est important d'avoir une idée comme ça, Amara?
Important, oui. Oui, c'est important d'avoir une idée novatrice,
oui,
qui sort de l'ordinaire. Par exemple, je ne sais pas, quelle idée personne n'a encore eue soulever les maisons et puis faire passer les voitures aux heures où il y a des embouteillages. C'est une idée novatrice.
Oui.
Ça sort de l'ordinaire, c'est bien, c'est tout. Mais le truc, c'est que quand tu as une telle idée, comment tu fais pour implémenter l'idée?
Mm-hmm.
Comment tu réfléchis à soulever les maisons? Comment tu réfléchis à faire accepter aux gens qu'à une certaine heure, ils doivent se laisser transporter dans l'air pour que les voitures puissent passer en bas, tout et tout. C'est compliqué. Pour entreprendre, on n'a pas forcément besoin d'inventer l'eau chaude. Il y a encore beaucoup de choses. J'aime dire, l'Afrique est un bébé en construction. L'Afrique est un continent qui vient de naître. Il y a tellement de choses à faire ici. Et tous les secteurs, je dis bien tous les secteurs en Afrique sont porteurs. Donc, on peut choisir le secteur de la radio, par exemple. Là, on est à la radio, on est à Radio de la Paix. On peut décider de faire en sorte que cette émission soit enregistrée depuis la maison sans qu'on ait besoin de se déplacer. Créer, je sais pas comment on va s'arranger, même s'il faut utiliser le téléphone de chacun, mais qu'on puisse enregistrer l'émission, que ça soit bien entendu comme ici, comme si on était en studio ensemble, via, je sais pas, Zoom ou je sais pas comment faire la chose, mais développer de telle sorte que si Radio de la Paix a 10 chroniqueurs qui se déplacent chaque jour pour venir, on puisse peut-être réduire un peu leur salaire pour ne pas qu'ils dépensent en transport et qu'ils restent à la maison avec cet argent-là, créer un espace dans leur maison, dans leur chambre et puis animer l'émission comme s'ils étaient là. Voici une idée qui existe déjà à la radio. Voici un business qui est bien placé, mais aujourd'hui vous venez d'apporter votre petite touche et vous vendez votre idée, votre innovation aux différentes radios qui existent. On pourra se faire de l'argent, on pourra encore devenir milliardaire. Donc on n'a pas forcément besoin d'inventer l'eau chaude. Il y a beaucoup qui est déjà fait. On a aujourd'hui des voitures électriques qui arrivent en Afrique. Pour la plupart, on a la CIE qui existe depuis des années, qui a encore besoin d'innovation, de rénovation, d'idées, si on veut. Véritablement, on peut.
Voilà.
Pas besoin d'inventer l'eau chaude.
Mais Jaurès, on entend aussi dire à côté de tout cela qu'il faut quand même que la solution ou l'idée qu'on apporte réponde à un besoin. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose de réel? Vous avez répondu à un besoin en particulier?
Oui, ce que je peux dire, c'est qu'avoir une idée qui sort de l'ordinaire, extraordinaire, c'est le Saint Graal. Mais en même temps, il ne faudrait pas que les gens soient complexés s'ils ne sont pas des génies forcément. Y a des domaines d'activité qui existent déjà. Il y a des besoins qui ne sont pas encore comblés dans ces domaines-là. Et simplement même en allant sur la page Facebook d'une entreprise et en voyant les plaintes que les gens ont, les plaintes, les retours clients et autres, on peut innover en apportant plus de valeur dans le domaine, en corrigeant tout ce que cette entreprise-là n'offre pas, par exemple, au fait. Donc, on peut innover dans un secteur d'activité en apportant plus de valeur, en faisant ce que les autres ne font pas. Mais là-dessus, c'est juste, par exemple, des choses qu'on corrige, mais on n'est pas en train, comme l'a dit, d'inventer l'eau chaude, au fait. Donc, en termes d'entrepreneuriat, c'est bien si on a une idée qui sort de l'ordinaire, mais en même temps, souvent, il faut regarder autour de soi, il faut regarder les manques qu'il y a dans le secteur. Il faut écouter les gens. Il y a une méthode qu'on appelle le design thinking, dont on parle souvent avec les gens qui travaillent dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est que quand vous avez un projet, il faut aller vers les utilisateurs finaux du projet, essayer de leur poser des questions pour essayer de comprendre leurs réels besoins, leurs réelles aspirations, en fait. Et c'est en fonction de ça qu'on va façonner le projet pour que ça puisse répondre à un besoin concret, en fait.
D'accord.
Voilà. Et donc là, on n'est pas en train d'inventer quelque chose d'extraordinaire, mais on est en train d'écouter les gens et de leur offrir le service qu'ils attendent, en fait. C'est un peu ça.
Alors, la réponse à un besoin est essentielle.
Oui, ouais. Essentielle, oui, parce que les gens, ils vont payer et les gens, ils ne font pas de la charité, au fait.
Mais c'est la base. Oui. C'est la base même de l'entrepreneuriat.
Ouais.
Vous ne pouvez pas inventer quelque chose dont personne n'a besoin. Vous allez vous ennuyer avec, en fait.
Et c'est ça un peu le problème de beaucoup de personnes qui ont un savoir-faire, mais qui n'écoutent pas suffisamment le public. Donc, il y a des gens qui vont se mettre dans leur bureau, ils vont développer des solutions pendant 6 mois ou 8 mois, et puis à la fin, ça ne répond pas à un besoin concret, en fait, sur le marché. Donc, c'est une perte de temps, en fait.
Alors, est-ce que vous diriez, on reste avec vous, que l'entrepreneuriat, c'est le moyen le plus sûr pour être riche par rapport à ceux qui sont employés?
Non, pas forcément. Pas forcément. Je pense qu'on peut être employé aussi et puis connaître de belles carrières, en fait. Donc, je pense que Tidiane Thiam, il n'est pas entrepreneur, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient avoir sa place aussi. Parce que vous voyez. Après, je pense que quand on est entrepreneur, on fait les choses comme on le souhaite. Donc, on est en accord avec ses propres valeurs. Et puis, c'est clair qu'en tant qu'entrepreneur et puis un employé, on peut scaler plus facilement en étant entrepreneur, en fait. Parce que là, vous pouvez, sur une année, réaliser par exemple de gros bénéfices que certains employés ne pourront pas forcément atteindre en une année, c'est pas ce que vous voyez. Donc, oui, on peut, mais moi je dirais c'est pas l'un ou l'autre. Il faut savoir ce qu'on veut et puis s'inscrire dans sa voie et puis travailler pour atteindre ses objectifs, au fait. Donc c'est pas soit employé, soit entrepreneur, parce que même les entrepreneurs, ils ont besoin d'employés qui sont performants, ils ont besoin d'employés qui se projettent, ils ont besoin d'employés compétents. Et donc, on va pas dire à tous ceux qui sont brillants de se lancer en entrepreneuriat, parce que je pense qu'on a besoin de tout le monde à toutes les places, quoi, en fait.
Amara, qu'est-ce que vous en dites?
Oh ouais, je soutiens ce qu'il dit. Est-ce que l'entrepreneur devient vite riche que l'employé? Peut-être. Peut-être. Le truc avec l'entrepreneuriat, c'est que si tu te projettes pas, tu vas penser que avoir de l'argent, c'est le plus important. Le monde de l'entrepreneuriat, quand tu rentres dedans, tu te rends compte que gagner de l'argent, c'est le plus facile. Ça, je sais que dans 10 ans, 20 ans, il ne va pas changer ça. Aujourd'hui, je suis bien assis pour dire gagner de l'argent, surtout en Afrique, c'est le plus facile. L'argent, c'est le plus facile à avoir. En entrepreneuriat, comme peu importe. Le plus difficile, c'est de conserver cet argent et puis léguer cet argent. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Quand on a fini de lire père riche, père pauvre, on dit non, je deviendrai riche. Non, mais quand tu lis père riche, père pauvre, tu te rends compte que le monsieur t'explique qu'il faut avoir l'idée, il faut entreprendre, il faut protéger tes acquis, tes revenus, et puis il faut léguer. Du coup, tu passes du statut de, si tu veux, d'employé, d'entrepreneur, d'investisseur, de businessman. Après, tu dois scaler, comme il dit. Tu vas passer à un autre niveau, léguer. Donc, quand tu as fini d'avoir cet argent en tant qu'entrepreneur, tu es aisément assis quelque part, tu dis, oui, l'entrepreneur gagne plus d'argent et il réussit vite que l'employé, tout et tout. Mais l'employé, tout un système a été construit autour de lui pour pouvoir lui permettre d'avoir de l'argent jusqu'à ce qu'il parte dans la tombe. Alors que toi, tu gagnes ton argent, tu dois maintenant rattraper tes nuits blanches. Donc, tu vas essayer de profiter un peu de cet argent, placer cet argent, ça et là, parce que après, tu vas pas revenir faire ton petit business que tu faisais tout le temps. Tu seras obligé de passer à un autre niveau. Donc, tu vas vouloir investir cet argent ailleurs ou bien faire agrandir ton business. C'est encore de gros risques que tu prends. Tu peux tout perdre au soir de tes 50 ans, alors que tu as commencé peut-être à 10 ans. Donc, tu peux prendre 40 ans, 20 ans pour chercher de l'argent, te faire beaucoup d'argent et puis tout perdre. Je dis bien tout perdre au soir de tes 50 ans, 60 ans et puis mourir pauvre. Donc c'est possible. Est-ce que l'employé est forcément riche que... Ça dépend, hein, Joe. On parle de quel emploi? J'ai l'impression que les gens passent souvent, ils pensent à Cafop seulement. Hein. Ah non! C'est pas ça. Mais après, il faut dire que l'employé a quand même assez à beaucoup de leviers pour devenir riche. Même si on se base seulement que sur le salaire, on se dit il a juste un salaire pour pouvoir vivre pendant 30 jours et puis reprendre encore sa vie. Comme les Blancs disent, métro, boulot, dodo. Nous ici, c'est embouteillage. Embouteillage, boulot, internet, Facebook. Tu vas clasher les gens, tu ris. Le soir, tu es sur TikTok, tu dors. Le lendemain, tu reprends encore. C'est pas ça la vie de l'employé. Un employé qui a réellement conçu son système, son plan, touche son salaire, il saura quoi mettre où pour s'en sortir, même s'il fait 50 ans à ce poste-là. Quand il ira à la retraite, il va profiter de son argent. Et moi, j'en connais plein. Je connais des personnes qui aujourd'hui 55 ans, 60 ans, qui profitent de leur vie, qui voyagent, qui font ce qu'elles veulent, qui s'amusent avec leur argent, qui n'ont pas forcément besoin de travailler encore, mais qui le font pour le fun, pour ne pas rester monotone, voilà quoi. Donc, pas forcément. C'est vrai que l'entrepreneuriat, pour conclure sur cette question, c'est vrai que l'entrepreneuriat permet véritablement d'avoir l'argent, la liberté, en griffe assez rapidement, parce que comme on dit, si un entrepreneur se concentre véritablement, au bout de 5 ans, c'est possible que vous ne le reconnaissez plus. Il va passer du statut de clochard en griffe à riche en griffe. Mais ça ne veut pas dire qu'il a réussi, parce que la réussite, c'est jusqu'à la fin, on voit.
Alors là, comme vous disiez, trouver de l'argent, c'est la chose la plus facile en entrepreneuriat. Donc si c'est facile, tant mieux pour nous alors.
Oui, trouver de l'argent, c'est le plus facile en entrepreneuriat.
Ok, alors on arrive sur la dernière idée reçue. Être entrepreneur, c'est vraiment relax. On n'a pas la pression de devoir se lever tous les jours. Alors on fait comme on veut, en fait c'est pour nous, c'est notre entreprise. On va quand on veut, on revient quand on veut, par rapport à ceux qui sont employés. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est vrai?
Moi je vois que si vous voulez être en paix, ne soyez pas entrepreneur en fait. Parce que je sais que les entrepreneurs, ils rendent beaucoup de comptes à beaucoup de personnes. Vous rendez des comptes à vos collaborateurs déjà. Parce qu'il y a des moments où les collaborateurs vont vous poser des questions. Ils vont vous dire, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas la direction dans laquelle on va. Vous rendez des comptes à vos clients. Vous rendez des comptes à l'État, vous rendez des comptes à tout le monde. Donc, c'est pas forcément, on va dire quoi, la situation dans laquelle vous êtes libre, 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 au fait. C'est surtout ça. Donc, l'entrepreneur, il fait du reporting à beaucoup de personnes. Ensuite, faut pas confondre des entrepreneurs qui ont 15 ans, 20 ans d'expérience et qui ont, on va dire quoi, qui ont connu une certaine réussite. Donc, qui aujourd'hui ont la capacité de recruter des personnes d'un certain niveau et tout ça, qui peuvent déléguer à peut-être quelqu'un qui se lance dès le début, au fait, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes ressources à disposition. Et donc, ils peuvent pas gérer leur temps de la même manière, au fait. Donc, moi, je connais des gens qui ont commencé en travaillant les week-ends, travaillant en soirée, ils n'ont pas pris de vacances pendant 10 ans. Et maintenant que l'entreprise a atteint certains niveaux, ils prennent des vacances tout le temps. Et bon, les gens, ils vont pas regarder le parcours, ils vont regarder maintenant quelqu'un qui est venu à la lumière au moment où il a réussi et qui se permet de voyager tout le temps. On dit, lui, il voyage tout le temps, c'est la vie des entrepreneurs. Non, c'est la vie d'un certain nombre d'entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui ont atteint un certain niveau, au fait. Parce que vous voyez. Et même encore ça, à la fin d'année, vous devez aller rendre des comptes aux impôts, vous devez rendre des comptes à vos collaborateurs, vous devez travailler pour, on va dire quoi, pour la réussite même de vos collaborateurs, parce que la responsabilité sociétale, est-ce qu'il faut travailler pour qu'ils aient de l'assurance, les droits sociaux et tout ça. Donc je veux dire que l'entrepreneur, c'est pas forcément une vie paisible s'il est conscient de ses responsabilités dans la société et qu'il doit donner à la société tout ce qu'elle lui donne, parce que comme il a dit, on gagne beaucoup d'argent, mais c'est la société qui nous donne cet argent. Il y a un retour qu'il faut faire vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des collaborateurs, voilà, et ça prend du temps aussi.
Alors Mara, est-ce que vous trouvez que c'est aussi stressant que ça, parce que quand même vous, ça fait longtemps que vous êtes là?
Il y a lu un jour sur Facebook, après, je ne sais plus quoi là, le moyen le plus rapide de mourir, c'est l'entrepreneuriat.
Après Goumet.
Après Goumet, le moyen le plus rapide de mourir, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Oui, c'est vrai, on parle de liberté, on parle de, généralement, ceux qui disent ça, ils n'ont pas vraiment des entrepreneurs. En tout cas, ceux qui redisent ça, sinon ceux qui ont inventé l'expression, la phrase, sont des entrepreneurs aguerris.
Oui,
comme j'ai dit, il y a un moment où vous n'avez pas de vie, il faut que vous l'acceptiez. Il y a un moment où, peut-être même vous n'avez pas de conjoint, vous n'avez pas de partenaire, parce que personne n'acceptera quelqu'un qui passe 20 heures de sa vie à travailler. Moi, il fut un moment où je travaillais même dans mon sommeil. Souvent, quand tu dis ça, les gens disent, oh, lui là, non. Moi, j'ai arrêté de mettre des alarmes sur mon téléphone. Dans ma tête, même si je dors à 3 heures, je dois me réveiller à 7 heures. Mon cerveau me réveille à 7 heures. Parce que ce niveau de stress où tes problèmes te réveillent deviennent une habitude. Donc, mon cerveau me réveille à l'heure où je veux me réveiller. Je n'ai plus besoin de mettre forcément l'alarme pour me réveiller. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat m'a appris que dormir, c'est un luxe. Mais aujourd'hui, je peux me permettre de dormir un peu parce que je suis à un certain niveau où je me dis, gars, allons mollo, sinon tu vas faire un burn-out. Repose-toi, profite un peu de ce que tu as cherché depuis longtemps, amuse-toi un peu. Aujourd'hui, quand je partage, quand je sors, je partage. Quand je sors, je partage. Le truc ici, c'est de montrer aux gens que, contrairement à tout ce que vous pensez, je m'amuse un peu. Il fut un moment où les gens pensaient que je ne dormais pas, que je n'avais jamais le temps. Parce que, effectivement, je ne dormais pas. Je n'avais pas le temps. Je passais tout le temps en train de travailler, en fait. Tout le temps en train de réfléchir à quoi faire après. Qu'est-ce que. Donc, tu ne peux pas dormir. Mais après, il y a un moment où tu te reposes. Donc, c'est sûrement ce moment où les gens se reposent là, qui viennent inventer des histoires de l'entrepreneuriat. C'est le moment le plus facile de devenir riche. On est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Non, on n'est pas forcément libre de faire ce qu'on veut, parce qu'un véritable entrepreneur, c'est vraiment cliché ce que je vais dire, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir, à chercher de nouvelles opportunités. Parce que moi, j'étais dans quoi? L'agriculture, l'aviculture après. C'est quand on partait chercher les forêts pour pouvoir faire nos plantations, qu'on se rendait compte qu'à l'intérieur du pays, les terrains étaient moins chers. Donc voilà comment je me lance dans la vente de terrains à partir de 500 000. À la base, l'immobilier, plusieurs fois on m'en a parlé, j'ai dit non, je vais attendre. Je vais avoir beaucoup d'argent quand je commence l'immobilier, je commence à construire mes maisons. C'était pas des trucs de construire pour revendre, non. C'était des histoires de construire mes maisons, les mettre en location et puis profiter de cet argent-là plus tard. Placer mon argent dans l'immobilier. À la base, c'était ça. Mais quand je suis rentré dans l'agriculture, j'ai commencé à chercher des terrains pour pouvoir faire mes plantations, mes champs de tomates, aubergines et autres piments. Je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, c'est facile de vendre des terrains. Après, j'ai dit, bon, si tu viens et que tu deviens juste un vendeur de terrains ordinaire, tu as apporté quoi en fait? Comme pour dire, il n'y a pas à inventer l'eau chaude. Donc, ma méthode à moi, c'était de réunir des personnes, dans des clubs qui vont cotiser 50 000, 50 000, 10 personnes, ça fait déjà 500 000, on achète un terrain. 10 personnes, donc chaque mois on achète un terrain. Au bout de 18 mois, avec les papiers, tout et tout, on s'est dit, il y a 100 000, 200 000, on peut faire des papiers. Au bout de 18 mois, on est sûr d'avoir au moins 10 terrains, 13 terrains. Donc 13 terrains, chaque personne a son terrain. Et puis les 3 autres terrains vont permettre au groupe d'être encore ensemble. Donc, un groupe, 3 terrains ensemble, ils ont les papiers, peut-être créer une société civile immobilière pour ces personnes-là qui ont 3 terrains qu'elles pourront revendre plus tard. Parce qu'au bout de 18 mois, c'est sûr que ces terrains vont prendre de la valeur. Donc, revendre ces terrains-là, prendre cet argent pour aller acheter encore d'autres terrains et puis permettre aux gens d'entreprendre ensemble. C'était l'idée. Et quand on a lancé, ça a pris. Après, on est passé de club de 50 000, 100 000. Mais en fait, après, on s'est dit, ouais, c'est vrai que dans les villages, les terrains sont moins chers, mais qu'est-ce qu'il faut vraiment apporter pour pouvoir toucher les gens? Donc, on étudiait les zones à fort potentiel. Donc, je prends un village comme, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je ne sais pas, un village comme Diangobo, où je sais qu'il n'y aura pas de projet là-bas. Je ne vais pas conseiller aux gens qui sont à Abidjan d'aller acheter des terrains là-bas. Pourquoi? J'étudie le secteur, si je vois que c'est porteur, il y a des projets de l'État, il y a des trucs, je dis aller acheter des terrains dans telle zone. Actuellement, c'est moins cher, vous pouvez acheter tout et tout. Donc, vous voyez un peu comment la chose est partie. Et puis, on a véritablement fait pour dire que, arrivé à un certain moment, même si tu veux, tu ne peux pas te reposer. Même si tu veux, arrivé à un moment, tu ne le fais pas forcément pour avoir de l'argent, mais tu le fais parce que c'est ce que tu sais faire de mieux.
Ok.
Tu as une idée, tout de suite, je suis assis là. Je parlais de soulever les maisons pour faire passer les trucs en bas. Je peux partir demain, m'asseoir et puis commencer à réfléchir. Ah ouais, c'est vrai que j'ai eu une idée tantôt. Comment ça vous fait? C'est vrai ça, 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 ça. À un moment, tu le fais parce que c'est facile pour toi. C'est ce que tu sais faire de mieux. Parce que t'as pris l'habitude de réfléchir ainsi, de voir des opportunités autour de toi un peu partout. Voilà un peu. Donc, entrepreneuriat, liberté, je pense pas. Mais quand même, c'est relax. Hein. À un certain niveau de ta vie, tu fais ce que tu veux. T'as pas de patron. Si tu veux t'arrêter là, dormir sur tes acquis, tu le fais. Je disais comme ça à mes enfants, si ça tenait qu'à moi, je pense que où je suis arrivé là, je peux vivre au moins 20 ans hein, tranquillement, les gars. On le fait parce qu'on ne connaît pas demain, puis vous êtes là. Voilà. Donc, à un moment, tu ne le fais pas parce que tu es libre ou tout le temps. À un moment, tu n'es plus ton propre patron. Ton cerveau même te dit, va le faire, tu sais le faire.
Voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour ces éléments de réponse. Moi, je retiens de tout ça que ce qui manque aujourd'hui à nos jeunes qui ont ces idées reçues là, c'est d'abord l'information exacte et aussi la formation. Parce qu'on a très peu de connaissances sur le sujet même d'entrepreneuriat. On ne sait pas exactement ce que c'est. Jaurès, veux ajouter quelque chose?
Oui, ce que j'aimerais dire, parce qu'on parle d'entrepreneuriat actuellement, et du 18 au 24 novembre 2024, ce sera la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, en fait.
D'accord.
Donc, c'est la semaine qui est dédiée à l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Et donc, on invite tous les entrepreneurs à se célébrer pendant cette semaine-là, en fait. Donc, partout où vous êtes, il faut marquer un arrêt, il faut créer des moments d'échange, des discussions entre vous, parler de vos problématiques, partager des expériences, et puis surtout, ayez des moments de gratitude. Célébrer l'entrepreneuriat pendant la semaine mondiale de l'entrepreneuriat.
En tout cas, je pense que ça sera très bénéfique pour tous ces jeunes-là qui veulent se lancer. Est-ce que, messieurs, vous avez quand même un dernier conseil à l'endroit de tous ces jeunes, ces futurs entrepreneurs? Amara, vous voulez dire quelque chose?
Informez-vous, formez-vous et surtout, ayez confiance en vous. Mais plus important encore, ayez de l'intégrité. Soyez des personnes avec des valeurs, parce que si vous voulez gagner de l'argent rapidement pour avancer, vous allez prendre des raccourcis qui vont vous rattraper. Et ça, faut que vous le compreniez. Tôt ou tard, ça rattrape. Tôt ou tard. Si vous connaissez quelqu'un, il y a 10 ans, qui a, entre guillemets, volé ou arnaqué des gens pour pouvoir se construire aujourd'hui, ne prenez pas cette personne en exemple, parce que tôt ou tard, ça va la rattraper. Je le dis tous les jours. Ayez de l'intégrité. Nous, aujourd'hui, on est fiers de dire on est passé d'un niveau X à Y en peu de temps ou en tel nombre d'années ou en tel nombre de mois parce que quelque part, on avait de l'intégrité. Aujourd'hui, moi, je mets quiconque au défi. On pourra tout dire d'Amara Bamba sur les réseaux, dire tout ce qu'on veut, mais personne ne peut venir aujourd'hui mettre en doute mon intégrité. Parce que tous ceux qui ont collaboré avec moi savent que même quand ça ne marche pas, ils préfèrent satisfaire les autres pour avoir la paix. Pour que demain, quand je passe, je puisse marcher la tête haute. Je puisse dire haut et fort, je l'ai fait par mes moyens grâce à Dieu. Que je puisse dire, c'est possible. Que je puisse dire, je n'ai pas atteint un niveau que j'espère atteindre en marchant sur les autres. Voilà. Ayez de l'intégrité, ayez des valeurs. Et puis, quand vous le faites, faites-le avec le cœur. Parce que tout ce qu'on fait juste pour avoir de l'argent et puis avancer, demain, ça rattrape.
Oui, Jaurès.
Donc, comme il a dit, hein, je pense qu'il faut s'informer et puis il faut se former. Il ne faut pas se dire que La barrière, c'est l'argent, non. C'est de se former, de s'informer et puis aussi de mettre l'humain au centre. Donc, dans les relations que vous avez avec vos collaborateurs, dans les relations aussi que vous avez avec vos clients. Comme il a dit, l'intégrité. Donc, sur le long terme, si vous travaillez avec des clients et que vous mettez aussi leur bien-être au centre de vos préoccupations, vous allez vous rendre compte que les relations commerciales vont durer et ça permet de bâtir des choses sur le long terme, au fait. Donc, il faut mettre l'humain au centre de ce qu'on fait. Il faut agir pour le bien-être de ceux avec lesquels on collabore. Et puis, c'est le meilleur investissement pour le long terme, au fait.
Voilà. Merci, messieurs, pour tous ces précieux conseils. Nous sommes à présent à la fin du sujet de discussion. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous recevions ce jour Amara Bamba, entrepreneur et vendeur de terrain, et Oué Jaurès, entrepreneur, fondateur de Digi Creative, qui est une agence spécialisée dans le conseil en communication et l'organisation d'événements professionnels. Merci messieurs et à bientôt sur Radio de la Paix.
Ok, merci bien.
C'était Sujet de discussion.